France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Dans notre traversée du département du Rhône, nous allons nous intéresser à l'apport des solutions numériques sur le logement. Avec la société OGA, implantée à Lyon, on parle de logement intelligent, accessible aux personnes qui se sentent encore étrangères aux nouvelles technologies. Autre version du patrimoine immobilier, cette fois avec une coopérative qui permet à des activités culturelles et associatives d'utiliser de grands espaces vacants. Cette coopérative, appelée Plateau Urbain, a créé ses services en Île-de-France, avant de les étendre à d'autres régions. Ce sera le sujet du deuxième volet de ces carnets.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Stéphane Gagnat, bonjour.
Bonjour.
Vous présidez, vous êtes cofondateur avec Laurent Auger de votre société OGA. O2GA, basée à Lyon. Vous êtes opérateur de logements de bâtiments connectés, vous avez des solutions simples et évolutives. En fait, ce sont quoi? Des thermostats intelligents qui permettent de faire des économies ou de prévenir les mauvais usages des sources d'énergie?
Exactement. Pour faire simple, on a étudié assez longuement la problématique des chauffages dans beaucoup de logements. On s'est rendu compte que la technologie était maintenant suffisamment mature et à un coût acceptable pour arriver à faire des produits qui soient réellement basés sur... j'allais dire sur l'humain, hein. C'est-à-dire qu'on ne soit pas sur un objet que j'appellerais gadget, même s'ils ne le sont pas tous, mais souvent quand on parle d'objets connectés, on va penser à un assistant vocal ou à des produits de ce type-là. Et nous, on a vraiment voulu se focaliser sur comment faire pour que finalement un foyer standard, un foyer de monsieur tout le monde, qui souvent n'a pas le réflexe de penser à sa consommation d'énergie qui est un peu invisible, et puis c'est un peu en cette période, on s'en rend bien compte. Donc comment faire pour mettre cette technologie au sein du logement pour que finalement le logement soit le plus économe possible sans toucher au confort des occupants?
Mais Stéphane, il existe déjà des logiciels qui permettent à distance, sur ordinateur ou sous son smartphone, de régler la température, de lancer la chaudière si besoin. Qu'est-ce que l'éco-touch, comme vous l'appelez, apporte?
Alors, vous avez raison, il y a énormément de solutions, puis de très belles solutions hein, d'ailleurs sur le marché. Nous, notre souhait, c'était vraiment d'adresser monsieur tout le monde, hein, donc une personne qui n'est pas du tout ciblée à l'avance, en se disant que finalement, beaucoup de personnes, et c'est malheureusement d'actualité, qui ont souvent des difficultés à finir la fin de mois, vont être plutôt orientées à se dire comment je fais pour aller acheter à manger, comment je fais pour... mais dans l'immédiateté, si vous voulez.
Oui.
Ils ne vont pas forcément penser tout de suite que en baissant le chauffage pendant leur absence de 3, 4, 5 ou 6 degrés en fonction du logement, ils vont pouvoir faire une économie significative peut-être de 30, 40 euros par mois. Donc on est vraiment parti sur un constat que l'on a fait avec des partenaires à nous qui sont nos clients, hein, les bailleurs sociaux, parce qu'on s'est rapidement adressé à ces acteurs-là qui ont une belle mission et qui ont également dans leurs locataires des gens qui sont souvent en précarité énergétique. Donc des personnes qui sont assez distantes par rapport à tous ces objets dont vous parliez. Donc ils sont déjà un petit peu, vous voyez, en porte-à-faux en se disant « bah oui, ces produits, en effet, on me dit que ça va faire beaucoup d'économies, mais il faut déjà que je dépense beaucoup d'argent en amont. Ouais. » Donc nous, notre approche a été différente par rapport à tous ces acteurs du logement qui font des objets connectés. C'est de se dire, en fait, on va faire en sorte que nos produits soient intégrés nativement et durablement dans les logements.
Mmh.
Et on s'est vraiment... axé dessus plutôt que d'aller sur un produit marketing qui paraît très technologique. Donc toute la partie intelligente est en local dans le logement, ce qui veut dire que l'occupant n'a même pas besoin de connecter son logement à Internet pour que son logement devienne, alors intelligent c'est un mot, je pense que vous serez d'accord avec moi, qui est un petit peu exagéré, mais en tout cas un logement un peu plus automatisé,
oui,
qui va être à même d'automatiser les économies d'énergie.
Mais alors, quand on touche un public qui se retrouve en situation de précarité, on vous entend parler de votre technologie, haute technologie très affinée, on se dit, oula, il y a un hiatus, parce que ça coûte cher cette technologie.
Oui, ça coûte cher. Alors, tout est relatif. Quand on dit que ça coûte cher, ça dépend avec quoi on compare. Quand, comme je vous le disais, on est sur des solutions qui vont durer à minimum 10 ans.
Mmh.
Et on est dans un pays, la France, qui malgré tout a de sérieux atouts et met beaucoup d'outils pour aider également à la transition énergétique. Donc nos solutions sont éligibles à différentes aides pour les bailleurs sociaux, entre autres, hein, mais un bailleur privé aurait les mêmes aides. Donc c'est des dégrèvements de leurs taxes foncières sur les propriétés bâties, c'est des certificats d'économie d'énergie, et c'est surtout un investissement sur le long terme. On a également œuvré pendant de nombreuses années sur une solution, donc, comme vous l'avez bien compris, qui est technologiquement très très évoluée, mais qui, paradoxalement, à l'usage, est extrêmement simple. Comme on le dit souvent, c'est souvent compliqué de faire simple. Donc on a vraiment œuvré pour avoir une solution qui, pour l'occupant, il n'a pratiquement même pas l'impression qu'il y a la technologie dans son logement. Et un produit qui va être sur une durée de 10 ans, qui va supprimer le fait de devoir aller changer des piles dans un thermostat, qui va supprimer de devoir envoyer un technicien pour expliquer comment marche le thermostat, qui souvent est compliqué.
Je signale que c'est au bénéfice, vous parliez des bailleurs sociaux, et donc au bénéfice des locataires qui ont des fins de mois difficiles, comme vous le disiez. Vous faites appel aussi, pour la réalisation de ces solutions, à des personnes qui sont en insertion professionnelle, exemple avec l'ESAT de la société ITAC, qui permet de fabriquer cette invention. Alors, ça s'appelle EcoTouch, que l'on doit à la société OGA, O2GA. Le site, c'est oga.fr. Merci Stéphane.
Merci beaucoup.
France Inter, carnet de campagne.
À Lyon, encore une très bonne initiative durable et solidaire à condition que la crise sanitaire ne lui coupe pas l'élan. C'est Philippe qui témoigne pour Capucine et Gaston. Notre correspondant parle au nom de sa femme, qui s'épanouit, comme il l'écrit, au sein de cette structure en tant qu'assistante de direction. Capucine et Gaston est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a l'agrément d'entreprise adaptée puisqu'elle forme et insère des jeunes en situation de handicap. Il s'agit d'un restaurant boutique reposant sur les postulats du local, du durable, zéro gaspille, et du solidaire. Le concept culinaire est à base de bocaux contenant des plats composés. Il est possible de consommer sur place dans le restaurant du 7e arrondissement lyonnais à deux pas de la halle Tony Garnier ou d'emporter ses plats préparés. Les jeunes en insertion sont formés à la vente en boutique, au service en salle ou à la cuisine. Sur sa page Facebook, Jean-Christophe Guidolec, fondateur de cette entreprise, prend la parole en ces termes. Je cite « Depuis plus d'un an, la petite barque de Capucine et Gaston fait cap vers l'univers du tout bio et du social. Aujourd'hui, le bateau compte 10 matelots, dont 5 en situation de handicap. Son gouvernail, maintenir l'emploi des jeunes travailleurs handicapés pour qu'ils arrivent au bout de leur qualification professionnelle. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons face au vent. Nous avons tenté à bâbord et à tribord et nous avons besoin de vous pour sauver nos matelots et leur production de bocaux. Voilà. Je lance donc pour cette petite entreprise sociale et solidaire une balise de détresse. Capucine et Gaston sont amarrés aux 14 places des docteurs Charles et Christophe Mérieux à Lyon. Le site, c'est capucineetgaston.fr. Simon Lenay, bonjour.
Bonjour.
C'est remarquable ce que vous faites avec votre association devenue coopérative Plateau Urbain. Vous en êtes le fondateur avec 3 amis. Il y a 8 ans, vous le dites, aujourd'hui dans les centres-villes ou en périphérie, il y a beaucoup d'immobilier vacant et d'immeubles. Alors très souvent, ce sont des friches industrielles qui peuvent être aménagées, qui peuvent recevoir des collectifs pendant un temps et qui peuvent permettre d'asseoir des activités. Et donc, vous avez créé ça avec vos 3 copains. Aujourd'hui, vous êtes une coopérative de 44 salariés. Je voudrais savoir quelles sont les fonctions de toutes ces personnes.
Notre coopérative, il y a essentiellement un peu plus de la moitié des salariés qui sont dédiés à la gestion de ces tiers-lieux temporaires et solidaires qu'on va pouvoir ouvrir partout en France. On en gère aujourd'hui 17 répartis sur le territoire national. Donc l'essentiel de l'équipe est dédié à ça. Après, on a une partie plutôt de conseil aux collectivités où on va accompagner par exemple la métropole de Lyon ou la métropole de Lille dans une forme de stratégie de mise à disposition de leurs fonciers pour soutenir des activités de l'économie sociale et solidaire ou plus largement de la transition.
Parce que la plupart du temps, ces bâtiments sont propriétés des institutions ?
Non, il y a plusieurs types de propriétés. Il y a pas mal de propriétés privées, notamment en Île-de-France, où il y a énormément de bureaux qui sont vacants, qui peuvent être propriétés de foncières institutionnelles, des groupes d'assurance comme BNP Cardiff ou Sogecap, qui vont avoir des immeubles qui vont être ponctuellement vides, et en attente de pouvoir les louer à nouveau, ils déposent de nouvelles autorisations de permis de construire pour pouvoir les redévelopper. Et on va avoir un temps de vacances qui va aller de 18 à 3 ans sur ces bâtiments. De l'autre côté, effectivement, il y a pas mal de biens publics qui, là, sont un peu des délaissés, des anciens collèges, des anciens hôpitaux, qui sont vraiment en attente de mutation sur des durées beaucoup plus longues.
Ce qui est dommage, c'est quand on lance une activité, on bénéficie de votre service, et on vous dit, c'est formidable, vous avez pu asseoir votre activité, mais aujourd'hui, il faut changer, il faut déménager.
C'est un peu le principe du modèle, c'était de remettre un fil de confiance entre les propriétaires et du coup les utilisateurs temporaires sur le fait de pouvoir utiliser pendant 1 à 3 ans ces millions de mètres carrés vacants. L'idée, c'est qu'on constitue une forme de tremplin pour des associations, des jeunes entreprises, des artistes, pour ensuite se pérenniser. Mmh. En revanche, malheureusement, pour tout ce qui est filière artistique, il y a un manque criant, et même pour juste démarrer, d'ateliers ou de locaux à bon marché dans les métropoles denses. Et on pense qu'avec notre action, on a aussi une forme de plaidoyer sur la nécessité d'avoir une forme d'encadrement des prix de location dans le tertiaire ou dans l'activité qui permettrait de loger en fait ces activités ESS qui ne trouvent pas leur place.
Ouais, alors vous dites effectivement, parce que vous êtes ouvert à l'économie sociale et solidaire en tant qu'acteur vous-même, et vous ouvrez donc aux collectifs culturels, aux associatifs pour ces espaces vacants, et vous avez aussi une clause que vous assumez parfaitement bien, de solidarité à l'égard des personnes en situation de précarité. Vous jouez cette mixité sur chaque installation.
Alors cette mixité, on l'a découvert au Grand Voisin. Et c'est quelque chose qu'on a pu reproduire avec l'association Aurore dans le 16e arrondissement, le projet qui s'appelle Les 5 Toits, qu'on a pu reproduire à Francheville, dans la périphérie lyonnaise, avec l'Armée du Salut et Notre-Dame des Sans-Abris, et qu'on a pu reproduire aussi à Antony, là aussi, dans le projet PADAF, avec l'association Aurore. L'idée, c'est de permettre des ponts d'insertion entre les personnes qui sont hébergées et les personnes qui travaillent, et de faire découvrir aux personnes qui travaillent le monde de la solidarité, et notamment certains dispositifs qui permettent de faire travailler des personnes qui sont accueillies dans les parties hébergement, comme le dispositif Premières Heures, qui a pu être déployé à Antony et à Paris.
Et je regarde le nombre de recherches d'espaces enregistrées le mois dernier sur votre plateforme du plateau urbain, 9031 inscriptions. C'est-à-dire qu'il y a au moins, il y a près de 10 000 organismes qui vous ont contacté, qui sont en recherche, associations ou acteurs culturels, en recherche d'un lieu.
Oui, c'est à peu près 700 000 mètres carrés de demandes de personnes qui ont besoin d'espaces accessibles à bon marché pour lancer leur activité.
Et quelles sont les conditions pour utiliser auprès de vous ces espaces?
On a mis en place des critères de sélection qui sont le réel besoin de locaux. Donc on s'adresse vraiment à des structures qui n'avaient pas forcément d'espace de travail avant. On a 56% des structures qui sont dans nos lieux qui travaillaient de chez eux en fait avant. Le deuxième, c'est la volonté de participer à un projet collectif. Donc nous, on se voit pas comme un bailleur, on se voit vraiment plutôt comme un médiateur qui va créer, donner vie au lieu. Ensuite, nous, on attache vraiment son tout particulier à créer des lieux de mixité. Donc on a une clause qui fait que on va essayer d'avoir un maximum d'activités diverses sur le site. Et après, on a le dernier critère de sélection qui va être plutôt en lien avec le projet directement. Donc soit avoir une attache particulière avec le territoire, soit quand on est dans des lieux de mixité, proposer des activités aux personnes qui sont dans les centres.
Plateau tradeunionurbain.com, vous allez voir, il y a un appel à candidature pour le hangar Brazza à Bordeaux, c'est immense. Je ne sais pas combien d'activités on peut placer là, mais c'est vraiment très impressionnant. Merci pour la démarche et bravo pour la coopérative, Simon.
Merci beaucoup.
J'avais conservé le message de Clémentine en prévision d'un nouveau passage dans le Rhône et à Lyon. Elle signait son courrier par ex-ingénieur reconverti dans la transition écologique lyonnaise. L'association qu'elle a cofondée en 2016 s'appelle The Greener Good. Oui, encore un anglicisme, mais qui traduit un souci mondial et pas uniquement franco-français. La raison d'intervention de l'association est de partager avec le plus grand nombre toutes les solutions qui existent pour mener une vie plus éco-responsable, plus respectueuse de soi et de l'environnement. Partager des découvertes dans la convivialité afin de favoriser le passage à l'action. Voilà pour résumer le fond des intentions de cette association. Justement, ces actions sont multiples. Des balades urbaines pour découvrir des adresses éco-responsables dans son quartier. Des rencontres thématiques régulières et un festival composé de conférences, de tables rondes, d'ouverture d'espaces exposants et une pelletée d'animations. D'autre part, l'association de Clémentine a édité un guide pour consommer responsable à Lyon et ses environs, avec 460 adresses et marques éco-engagées. Elle est labellisée Lyon Ville Équitable et Durable depuis 2018. Il y a 260 organismes qui ont à Lyon déjà bénéficié de ce label. Le site, c'est thegreengood.fr. Avant de retourner justement à Lyon, musée des Confluences, avec Nicolas Stoufflet, je rappelle et je me répète que nous traverserons prochainement une partie de la Bretagne, les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, avant d'aborder le Maine-et-Loire, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Nicolas, donc, au musée des Confluences pour le jeu des 1 000 euros.